Conférence privée par le père Philippe à Rimont, le 4 juin 1988.
J'hésite après cette journée de joie de regarder ce chapitre 17 de l'Apocalypse, qui n'est pas commode, mais après tout, c'est vraiment ce que montre l'Apocalypse. Il y a toujours deux versants, le versant du ciel et le versant de la terre. Quand nous sommes un peu pris par le versant du ciel, toute profession perpétuelle, c'est comme un avant-goût du ciel. Ça ne veut pas dire qu'on est au ciel dans tout notre être, mais c'est comme une sorte d'anticipation. Je crois que c'est bien ça que toi. Être la vie religieuse, ça doit être comme une espérance eschatologique pour l'humanité, comme un rappel d'une réalité cachée. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Et la vie religieuse proclame que le royaume de Dieu est déjà là, il est déjà dès ici-bas. Il reste caché, et nous avons, et nous continuons d'avoir nos fragilités et nos faiblesses. Et cependant, il y a une réalité cachée qui est réelle, qui est le mystère du royaume de Dieu. C'est pour ça que quand on regarde l'Apocalypse, on nous montre à la fois que la grande victoire du ciel, la grande victoire de Jésus dans le mystère de la résurrection est déjà présente. C'est le grand symbolisme du cheval blanc. Je prends le symbolisme de l'Apocalypse. C'est le grand symbolisme du cheval blanc qui nous montre de fait cette victoire. Nous allons voir comment de fait ce symbolisme vous est donné. Et nous avons au plus intime de nous-mêmes, selon le premier sceau, le symbolisme du cheval blanc. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose dans notre grâce chrétienne qui est la gloire du Christ. Saint Paul nous dit que la grâce, c'est semence de gloire. Et la semence de gloire fait que le mystère de la gloire est déjà présent au plus intime de nous-mêmes, dans notre cœur. Évidemment, il reste caché. Et c'est pour ça qu'il n'est pas mauvais de voir ce mystère des sept coupes que nous avions vues la dernière fois. Ces sept coupes, c'est les sept dernières purifications pour ce discernement. Il y a en nous, en chacun d'entre nous, il y a quelque chose de divin, et puis il y a aussi la marque de la bête. Autrement dit, il y a des emprises du démon. Nous savons bien les conséquences du péché originel qui demeurent jusqu'au bout. Et ces emprises du démon par les conséquences du péché originel nous mettent toujours dans un certain état de division. Saint Paul dit, il y a en moi deux hommes. Et c'est vrai, il y a toujours en nous, tant qu'on est sur la terre, il y aura toujours en nous deux attitudes, deux tendances, une vers le bas, les concupiscences de la chair, des yeux et de la vie. Il y aura toujours en nous quelque chose qui nous portera contre le Christ. Pas nécessairement explicitement, heureusement, mais nous sentirons en nous ce poids. Et puis, il y a en nous quelque chose qui est la victoire du Christ. Et à la fin, il y a le discernement de Dieu qui se fait sur nous. Le jugement en grec, c'est toujours le discernement. C'est-à-dire séparer en nous ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Oui, le bon grain, le mauvais grain. Vous savez bien que dans l'Évangile, ça nous est dit qu'on n'a pas à faire nous-mêmes ce partage. On voudrait bien, de temps en temps, faire ce partage du bon grain, du mauvais grain. Et pouvoir séparer en nous tout ce qui est du mauvais grain pour que le bon grain demeure à l'état pur. Et notre Seigneur nous montre qu'il ne faut pas le faire. Si vous voulez arracher le mauvais grain, vous risquez d'arracher le bon grain avec. Et c'est vrai, une attitude stoïcienne et trop stoïcienne qui existe chez les meilleurs veut à tout prix être nous-mêmes l'auteur de la séparation du bien et du mal en nous. Et l'attitude stoïcienne aboutit toujours à un échec. Parce que ce n'est pas nous qui pouvons faire ce partage. Nous cherchons à faire le mieux qu'on peut. Mais on sait que même quand on cherche à faire le mieux qu'on peut, il y aura toujours un certain égoïsme, un certain orgueil. Augustin le dit avec beaucoup de force. Il dit que celui qui veut, par exemple, avoir un cœur extrêmement pur, dans le sens d'un esprit de virginité, il peut très bien s'infiltrer de l'orgueil. Alors, à cause de ça, on ne cherchera pas à avoir un cœur pur. Si on veut un purisme absolu, il faut accepter que tant qu'on est sur la terre, le bon grain est toujours lié avec le mauvais grain. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup de Brémond, quand il parle de la spiritualité à un moment donné au XVIIe siècle, de la pureté absolue. On veut arriver à une conscience d'une pureté absolue. Il y a un perfectionnisme spirituel. Ça existe. Des gens qui ne veulent que ça. Donc l'amour pur à l'égard de Dieu. Alors, Brémond, qui aime bien de voir justement les contradictions qui peuvent exister chez les êtres spirituels qui veulent trop bien faire par eux-mêmes et ne laissent pas assez l'action de l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit Saint qui purifie. Les dons du Saint-Esprit impliquent toujours en nous une purification. Tous les dons. Il y a un aspect positif et un aspect négatif. Vous voyez, c'est pour ça que les sept coupes sont liées aux sept dons. Parce que les dons du Saint-Esprit font en nous ce discernement de ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et ça, c'est très important à comprendre que, en définitive, il n'y a que Dieu qui peut nous donner un cœur tout à fait pur. Nous le désirons. Oui, c'est la béatitude des cœurs purs, c'est les puretés, la pureté d'intention. Mais ce n'est pas dans l'ordre de l'exécution. Dans l'ordre de l'exécution, il y aura toujours des bavures. Et si on regarde trop ces bavures, on se désespère. Alors Brémond fait cette petite remarque que je trouve tellement jolie, qu'il faut retenir parce qu'elle est tellement belle. Alors il parle d'une personne extrêmement pieuse, châtelaine de l'endroit où elle se trouve. Et comme le curé avait demandé de pouvoir avoir des clés pour son clocher, avoir de nouvelles cloches, alors elle vient offrir au curé les cloches nouvelles. Et elle dit à M. le curé, surtout, ne le dites à personne que c'est moi. Parce qu'autrement, je n'aurais plus le mérite de faire ce geste avec toute la pureté de mon cœur. Alors le curé dit, c'est très bien, je n'en parlerai pas. Alors elle ajoute, mais M. le curé, est-ce que vous ne pourriez pas écrire mon nom à l'intérieur des cloches, pour que chaque fois que le tympan tape, il tape sur mon nom. Alors, ce sera la manière de louer Dieu. Oui, alors évidemment, Brémond, à ce moment-là, fait une belle page pour montrer que les cœurs qui veulent la plus grande pureté se rattrapent. Oui, c'est la manière dont la nuit on fait ses raptes divins. Dans l'Écriture, on voit les fils d'Élie, du grand prêtre Élie, qui, pendant la nuit, font des rapines par rapport aux holocaustes et prennent les meilleurs morceaux pour eux, alors que c'est offert à Dieu. C'est ça qu'on appelle les rapines. Ça se fait toujours dans l'obscurité. La main droite donne généreusement, puis la main gauche reçoit de l'autre côté. On a tous, si on a une conscience bien faite, on fait tous des rapines comme ça. On essaie de se rattraper. Les psychologues savent très bien ça. On rattrape des choses comme ça. C'est très curieux. Eh bien, je crois, vous voyez, que les sept coupes montre la manière dont Dieu enlève les vrais. Ça se fait, ça peut très bien se faire, de façon très rapide, on a tous vu ça. J'ai des personnes qui aimaient beaucoup Dieu, et qui à la fin de leur vie peut-être ont eu une agonie extrêmement pénible, qui a pu durer un mois, deux mois. Des gens qui ont eu très grosse souffrance à la fin de leur vie. Et on dira, c'est leur purgatoire sur la terre. Les purifications, à la place de les faire dans l'au-delà, il faut mieux les faire sur la terre. C'est pas toujours très drôle. C'est Saint Jean de la Croix qui nous dit qu'il faut demander faire son purgatoire sur terre. Le purgatoire sur terre nous permet d'augmenter dans l'amour. Tandis que purgatoire dans l'au-delà ne nous permettra pas de grandir dans l'amour. Évidemment, il faut s'attendre à recevoir certaines petites corrections de Dieu. Tu as pu ménager pendant notre vie certaines douceurs et Dieu voudra qu'à la fin de notre vie, on fasse son purgatoire sur la terre. Les sept coupes. Je crois que c'est comme ça qu'on doit lire les sept coupes. Les sept grandes purifications. Et je crois que si on voulait pousser un peu, je ne l'ai pas fait, mais je suis persuadé qu'on découvrirait les sept purifications à partir des sept dons du Saint-Esprit. Pas pour rien qu'il y a le chiffre 7 hein, tout le temps. Les sept dons du Saint-Esprit qui représentent la taille du Père et en même temps les sept dimensions de l'homme. Une véritable anthropologie réaliste font qu'on découvre cette dimension dans la personne humaine. Et ces sept dimensions sont les sept attentes de l'homme par rapport à la grâce divine. Et la grâce divine, quand elle est tout à fait ultime, plénière, implique les sept dons du Saint-Esprit. Il y a une très grande unité à travers tout cela. C'est ça qui est merveilleux. Évidemment, dans l'Apocalypse, il y a un langage très symbolique qui quelquefois voile. Alors on dirait, mais pourquoi le Saint-Esprit n'a-t-il pas parlé plus clairement ? Le Saint-Esprit n'a pas parlé plus clairement pour nous donner le travail de chercher. Toutes les prophéties ne sont jamais claires. Et peut-être qu'on ne supporterait pas la clarté. Pourquoi le secret de Fatima n'a-t-il pas été révélé ? Saint-Père, je crois, l'a dit en Allemagne, que les hommes auraient tellement peur qu'il n'a pas eu le courage de le dire. On comprend très bien ça. Parce que vous voyez, quand on est devant la souffrance, on a la grâce pour la porter. Tandis que quand on l'annonce et qu'on ne sait pas exactement si on doit l'annoncer, quand c'est un peu une connaissance par curiosité, on n'a pas la grâce. Oui, on est souvent beaucoup plus fort devant la réalité telle qu'elle se passe que lorsque on est à quelques jours de cette réalité et qu'on sait que ça va se passer. On a une frousse intense. Parce qu'on n'a pas encore la grâce. C'est en ça que les décisions de Dieu se font toujours dans l'ordre de l'exécution de façon ultime. Et on doit attendre la lumière de Dieu toujours de cette manière ultime. Si on la demande avant, on risquera de ne pas pouvoir la porter. Et ça, je crois que l'Apocalypse nous apprend ça. L'Apocalypse nous montre comment les grâces de Dieu, les grâces de lumière, nous sont toujours données d'une manière ultime. Donc, après les coupes, nous entrons avec le chapitre 17. Je vous l'ai déjà lu une fois, mais je le reprends. Je vais aller assez vite, parce que ça ne demande pas beaucoup d'explications. Et si on regardait trop près, je ne dis pas que ça nous ferait peur, mais... Et vint un des sept anges qui avait les sept coupes. Il parla avec moi, disant, « Ici que je te montre le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux avec laquelle se sont prostitués les rois de la terre. Et les habitants de la terre, et se sont enivrés du vin de sa prostitution. » Alors le mot prostitution, selon l'Écriture et l'Apocalypse, c'est l'idolâtrie. Il ne faut jamais l'oublier. Parce que c'est l'infidélité radicale. Et l'infidélité radicale, c'est l'idolâtrie. La fidélité, c'est l'adoration. On est fidèle à Dieu quand on adore. C'est pour ça qu'il faut s'habituer aux sept actes d'adoration par jour, pour se maintenir dans la fidélité. Comme ça, on n'est jamais très longtemps dans la fidélité. Si vous ponctuez votre journée par sept actes d'adoration, c'est un petit truc du Saint-Esprit. Vous voyez, là encore, les sept dons du Saint-Esprit, ils viennent pour permettre cet acte d'adoration. C'est très beau, ça. C'est Dom Bélanger qui m'a dit ça. Et Dom Bélanger, qui était l'abbé de Cîteaux, un converti, des vétérinaires quand il était un croyant. Et quand il est croyant, il est devenu abbé, si tôt. Et c'est Dieu qui prépare, toujours, d'une manière lointaine, quelquefois, mais quand même, c'est assez étonnant. Don Bélanger est un grand abbé, si tôt. C'est bien que le père Joseph garde une vénération pour Don Bélanger, parce qu'il a été son abbé pendant un certain temps. Alors il garde une vénération. Quand j'ai dit que je rencontrais Don Bélanger, il y a eu tout de suite un rapprochement énorme, parce que, et que j'appréciais Don Bélanger, et que je l'aimais, et que Don Bélanger avait écrit une lettre au père de Haut, en le remerciant d'avoir écrit les fleuves d'eau vive, et en lui disant combien il était heureux, comment il lui demandait de venir prêcher à Citeaux. Et que Père Doux ne pouvait pas bouger à ce moment-là, il m'a dit, va le voir de ma part. Alors j'étais l'envoyé pour aller voir Don Bélanger, ça m'a beaucoup frappé du reste. Ça m'est resté, ça. C'est cet acte d'adoration. En 6 mois, sa trappe de travailleur est devenue une trappe de contemplatif. En 6 mois. Donc si vous voulez devenir des contemplatifs, je vous donne la recette en 6 mois. Si vous le faites avec un très grand amour, n'est-ce pas, parce que 7 actes d'adoration par jour, le bréviaire des pauvres, tous faire ça. Alors, l'idolâtrie, c'est la prostitution. Et la prostituée, c'est l'œuvre du démon dans le cœur de l'homme. Vous voyez, c'est l'antithèse de l'Église. Le démon a une rage contre l'Église, contre Marie et l'Église, contre la femme. Chapitre 12. Le dragon face à la femme. Il ne peut pas les supporter. Parce qu'il ignore tout de Marie, comme il ignore tout de l'Église. Il ne connaît que l'aspect sociologique de l'Église, comme il ne connaît que l'aspect psychologique des saints, c'est-à-dire ce qui n'est pas la sainteté. Et l'aspect sociologique de l'Église, c'est ce qui n'est pas la sainteté de l'Église. Et en Marie, il ignore tout, parce que tout a été entièrement pris par la grâce. Donc elle est pour lui un mystère, un problème. Et c'est terrible pour lui. C'est le grand problème du démon. Comment se fait-il qu'une petite descendante d'Adam et Ève lui échappe complètement? Alors qu'en orgueilleux, il transformait les permissions de Dieu en droits. Et le démon croit. Il a des droits sur l'humanité. Parce qu'on est dans le péché originel. Alors, il est persuadé d'avoir des droits sur nous. Ça explique beaucoup de choses. Hein. Alors qu'il n'a aucun droit. Permission de Dieu. Punition. Permission de Dieu. Mais lui transforme les permissions en droits. C'est ce qu'on fait automatiquement par l'orgueil. Et alors, l'antithèse de la femme, c'est la prostituée. La grande prostituée, vous voyez. C'est très curieux, hein. Le grand dragon, le grand cygne, c'est toujours de l'ordre de la quantité. On ne dira jamais la grande femme. Jamais. Très heureux pour les petites femmes, vous voyez. Parce qu'on ne dira jamais la grande femme, comme si Paris était la grande femme. Pas du tout, pas du tout. Marie n'a pas de taille. Elle n'a qu'une taille intérieure qui est magnifique. Mais c'est très curieux que c'est de l'ordre toujours de la quantité. La grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Vous voyez la liturgie de la prostituée. Elle est assise, ça contient debout. Elle est assise sur les grandes eaux. Vous voyez ? Parce que c'est vrai. Et le repos, où c'est salé, on descend le fleuve. Descend le fleuve. Assise sur les grandes eaux. Et encore l'inversion par rapport à Marie. Les grandes eaux, comme si les grandes eaux lui appartenaient. Les grandes eaux. Avec laquelle se sont prostitués les rois de la terre. Et les habitants de la terre. Alors, toujours les rois de la terre. Les habitants de la terre, dans le langage de l'Apocalypse, ce sont ceux qui sont, on dirait, des matérialistes, qui n'ont plus aucune finalité spirituelle. Et il m'emporta en esprit au désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Marie, toujours l'antithèse de Marie et de l'Église. Assise sur une bête écarlate, pleine de noms blasphématoires, ayant sept têtes et 10 cornes, on retrouve la bête de la mer. Sept têtes et 10 cornes, il y a une reprise. Là, c'est la bête de la mer. Et la bête de la mer, c'est le démon qui prend possession de l'intelligence de l'homme. Le démon veut pervertir l'intelligence de l'homme. Et c'est pour ça qu'il y a des noms blasphématoires sur les têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et toute dorée d'or, et de pierres précieuses, et de perles. Elle avait dans sa main une coupe d'or, pleine d'abomination. Oui, l'antithèse des coupes, qui sont le jugement de Dieu et le discernement. Et elle avait dans sa main une coupe d'or pleine d'abomination et les impuretés de sa prostitution. Et sur son front, un nom écrit, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées. Et des abominations de la terre. Et je vis cette femme s'enivrer du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je m'étonnais d'un grand étonnement. C'est assez extraordinaire, ça. Et la voyant, je m'étonnais d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonner ? Vous voyez bien, c'est les coupes qui viennent des anges, qui mettent en pleine lumière la prostituée. C'est ça le discernement. On voit l'œuvre de la bête, de la mer et de la terre. Alors que d'habitude, on ne la voit pas. C'est caché, l'œuvre des ténèbres. Et les coupes, le mystère des coupes, donne ce discernement entre le bien et le mal, entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient du démon. Alors, dans cette lumière, dans ce discernement, on découvre Babylone la grande. Découvre la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme s'enivrer du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. S'enivrer, c'est-à-dire être celle qui est source de cela. Son action, c'est cela, c'est de rejeter les témoins du Christ. Rejeter les saints. Et ça, c'est l'efficacité de la prostituée, de la mère des prostituées. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonner ? Moi, je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a 7 têtes et 10 cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. elle va monter de l'abîme et aller à sa perte. C'est très beau, ça. Le mal ne dure pas. Il n'est qu'un temps. La prostituée, la Babylone, la bête de la mer, elle était, elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et elle a sa perte. Et ceux qui habitent sur la terre, dont le nom ne se trouve pas écrit depuis la fondation du monde, sur le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête de ce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Oui, elle était sur la terre, elle n'est plus, elle reparaîtra. Ce qu'on dit autrement, que les peines de l'enfer ne sont pas éternelles, vous voyez. Petit danger, elle reparaîtra. Alors avec le discernement entre les bons et les mauvais. C'est, vous voyez, quand Jésus parle du jugement dernier, des bons et des mauvais, et la manière dont l'Apocalypse en parle, c'est très étonnant, parce que c'est le même mystère, mais en deux visions totalement différentes. Mais des deux côtés, on voit le discernement et l'étonnement, même l'étonnement des élus, quand Jésus dit, quand tu m'as vu nu, tu m'as donné ton vêtement, quand tu m'as vu avoir faim, tu m'as donné. Ils lui disent, mais quand, Seigneur, je vous ai vu? Quand tu l'as fait au plus petit? C'est très étonnant, ça. Parce que ça montre que lorsque nous agissons sous le souffle de l'Esprit Saint, nous agissons le mieux que nous pouvons, mais nous ne voyons pas toujours où se termine notre acte. C'est ça qui est très beau. L'Esprit Saint agit du dedans. Toujours dans l'obscurité. Vous voyez, ce n'est pas ce que nous expérimentons qui est le plus grand de l'œuvre de Dieu. J'allais presque dire, c'est même ce que nous n'expérimentons pas. Parce que le mystère, il est au-delà de ce que nous expérimentons. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Quand vous expérimentez, vous avez une expérience intérieure. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit de rejeter toute expérience que Dieu nous donne. Pas du tout. Il faut les dépasser. Il ne faut pas s'y arrêter. Il ne faut pas noter sur un petit carnet 10 heures, grâce extraordinaire. Puis on décrit, et puis on relit ça de temps en temps. Je ne suis pas si mal, hein, vous voyez. Je me souviens bien. Alors on fait une réminiscence de ça. Non. Ne nous appartient pas. On vit du mystère. C'est ça, revenir toujours à la foi. C'est ça, la béatitude de la foi. Et c'est bien ce que Jésus nous fait comprendre quand il est devant l'étonnement des élus. Mais quand je vous ai vu avoir faim, avoir soif, quand tu l'as fait au plus petit. Et l'étonnement est le même de l'autre côté. Hein. Avec la différence, c'est que le mal n'est plus un mystère. Le péché n'est plus un mystère. Le méché est dans le psychologique. L'orgueil, vous pouvez saisir ce que c'est que l'orgueil d'une façon psychologique. Tandis que vous ne saisissez pas d'une façon psychologique le contact intime que vous avez avec Dieu. Ça échappe à votre psychologie. Tandis que vos péchés d'orgueil, les prostitutions d'idolâtrie, que vous n'avez pas, j'espère bien, l'orgueil, c'est différent. Les grosses vanités, tout ça, c'est le logique. On connaît ça très bien. Parce que le péché nous plonge dans le point de vue psychologique. Parce qu'il nous coupe de la faim. Il nous replie sur nous-mêmes. Vous voyez, c'est vrai que la psychologie est une psychologie de pécheur. Il ne faut pas l'oublier. Il y a des éléments qui peuvent être bons, psychologie, c'est la psychologie du pécheur. La psychologie du malade. C'est évident que quand on est malade, on est bien plus attentif à une quantité de choses que nous portons en nous. Quand on est bien portant, que ça va bien, que c'est la réussite, le lendemain d'un examen, le soir d'une prise d'avis, c'est merveilleux. On est dans le ciel, on plane un peu, vous voyez. Alors, à ce moment-là, non, on ne se tâte pas le pouls, parce qu'on vit au-dessus. Tandis qu'au contraire, dès qu'on pêche, immédiatement, on se replie sur soi. Alors, il faut bien saisir, ici, ce qui nous est montré. Et ceux qui habitent sur la terre, et dont le nom ne se trouve pas écrit dans la fondation du monde, qui ne se trouve pas écrit depuis la fondation du monde sur le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête de ce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Alors, soulignez bien les noms qui sont inscrits sur le livre de vie. Il ne faut pas tomber dans le fatalisme. Il y a l'interprétation de ça qui pourrait être fataliste. C'est pas ça que je veux dire. Dieu ne nous sauve jamais sans nous. La grâce est une grâce qui implique la coopération. Et plus la grâce est grande, plus Dieu réclame notre coopération. Et plus Dieu veut que nous répondions à sa grâce, librement, de cette liberté des saints. Plus forte que toute nécessité. Ça, c'est sûr. C'est la liberté de l'amour. Et rien n'est plus exigeant que l'amour, et rien n'est plus nécessaire que l'amour. Donc, c'est une liberté à l'intérieur d'une nécessité. On sait bien qu'on est libre. On est libre sous le sceau de l'Esprit Saint et sous l'attraction de Dieu, et on ne peut pas faire autrement. Et on est libre. Ça, c'est celui qui dit que je n'ai pas fait profession avec liberté. Attention, quel genre de liberté et quel genre de longue liberté? Parce que psychologiquement, c'est au-dessus. Quand vous faites un acte de profession perpétuelle, vous le faites librement, mais une liberté qui est sous la mouvance de l'Esprit Saint, puisqu'il y a une mission de l'Esprit Saint. Donc il y a une action directe de l'Esprit Saint. On ne pourrait pas faire profession perpétuelle sans une mission d'Esprit Saint. On calerait. Et au moment où la supérieure vous appelle, on serait sourd. On ne répondrait pas. Il y a une mission d'Esprit Saint. Et donc, il y a une emprise de l'Esprit Saint, d'amour, qui fait que on est souverainement libre. Mais c'est une liberté qui est au-delà du point de vue psychologique. C'est pour ça qu'on peut très bien ne plus s'en rappeler, vous voyez. C'est très curieux, ces choses-là. La tentation du démon peut très bien, parce que c'est divin. Alors, ordinairement, on s'en rappelle à cause de la préparation. C'est bien évident. Mais au moment même où on prononce ses vœux, je dis pas, je fais un acte libre. Pas du tout. Vous êtes mu. Je crois que c'est très important, ça. Parce qu'on l'oublie peut-être un tout petit peu trop. C'est un acte qui se fait sous la motion d'Esprit Saint. C'est merveilleux, du reste. Qui dépasse tout le psychologique. Évidemment, la préparation, c'est très bien, on a pu avoir des doutes, des périodes de lutte. Et puis on s'est dit non. Vous voyez, il y a eu un moment où on était victorieux. Et au moment où on était victorieux, l'Esprit Saint nous a pris. Alors, l'inverse, c'est justement l'inverse. C'est lorsqu'on cède au péché, alors on retombe dans le point de vue de l'orgueil. Parce que c'est l'orgueil qui est à la racine de toute faute, qui qui met une rupture à l'égard de Dieu. Ici est l'intelligence qui a de la sagesse. Ici est l'intelligence qui a de la sagesse. Et vous voyez bien, lorsqu'on voit l'influence de la bête qui monte de l'abîme est allée à sa perte, qu'on voit qu'elle était, n'était plus, et qu'elle réparatra, qu'elle va reparaître. Ici est l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept bêtes sont les sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Montagne, symboliquement, vous savez bien, depuis Isaïe, c'est l'orgueil. Puisque le prophète veut supprimer tout ce qui nous empêche d'atteindre Dieu. Ce sont aussi sept rois. Donc c'est l'orgueil, l'ambition, le pouvoir. Cinq sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il viendra, il doit demeurer peu. Et la bête qui était et n'est plus est elle-même un huitième roi. Et elle est des sept et elle va à sa perte. Vous voyez, c'est tout à fait chaotique. C'est l'anarchie de la bête. Il n'y a aucun ordre dans les idéologies athées. Aucun ordre. Elle se contredit. Très, très curieux, ça. Il n'y a aucun ordre dans les idéologies athées. C'est pour ça que la psychologie comme telle, comme on ne peut pas faire le discernement au niveau psychologique de ce qui est de l'orgueil, de ce qui est de la vanité, de ce qui est du péché, on ne peut pas. Il y a un regard divin qui peut le faire. Au niveau purement psychologique. Alors c'est pour ça que c'est anarchique. La psychologie de l'orgueil est terriblement anarchique. C'est 7 et 8, vous voyez. Et on comprend très bien ces 7 et 8. Les béatitudes sont 7 et 8 aussi. Hein? Donc il faut bien l'antithèse, 7 et 8, mais pas du tout de la même façon. 7 et 8, c'est parce que, de fait, il y a les sept fausses orientations, les sept idéologies athées. Et la huitième, c'est l'esprit de négation, le primat du négatif, présent dans les sept idéologies athées. Comme les sept béatitudes impliquent la lutte et la victoire de l'amour sur toutes les luttes. Ici, la huitième, c'est l'esprit d'orgueil. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu la royauté et qui reçoivent pouvoir comme roi pour une heure avec la bête. C'est la bête qui leur donne ce pouvoir, un pouvoir qui ne dure pas. Ça peut durer pour nous, hein. Quand ils sont des tyrans, ça peut faire une génération, ça peut faire 40 ans, ça peut faire 50 ans, c'est évident, ça ne dure pas en face de ce que c'est que l'éternité. Or, l'Apocalypse, c'est dans la vision d'éternité. Ceux-là n'ont qu'un seul dessein, ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Oui, l'alliance qui est nette et qu'on découvre par le don d'intelligence dans le don de sagesse. La science. Ceux-là feront la guerre à l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est seigneur des seigneurs et roi des rois. Et ils vaincront ceux qui sont avec lui, appelés et élus Il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, ce sont des peuples, ce sont des foules, ce sont des nations, ce sont des langues. Et les 10 cornes que tu as vues, et la bête, haïront la prostituée. Ils la rendront déserte et nue. Ils mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu leur a mis au cœur d'exterminer son dessein, d'exécuter un seul dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que soient achevées les paroles de Dieu. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui est la royauté sur les rois de la terre. Donc on nous montre que le royaume de la bête et de la prostituée, de la femme assise sur la bête, est divisé en lui-même. Dieu se sert des conséquences du démon pour attaquer les conséquences du démon. C'est très beau, ça. C'est de montrer à l'intérieur même du mal, il y a toujours une contradiction. Toujours. Et le mal se nuit à lui-même. Puisque le mal ne peut pas être substantiel. Et il y a toujours à l'intérieur du mal cette espèce de contradiction, d'opposition. Après cela, je vis un ange descendre du ciel avec un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une demeure de démons, un repère pour tout esprit impur, et un repère pour tout oiseau impur et détesté, parce que toutes les nations ont bu du vin de sa furieuse prostitution, et que les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et que les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe. Et j'entendis une autre voix venant du ciel, qui disait, sortez de chez elle, ô mon peuple, pour ne pas vous associer à ses péchés, et pour ne pas recevoir de ses plaies, car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est rappelé ses injustices. Payez-la comme elle-même a payé, rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Autant elle a étalé de gloire et de luxe, autant donnez-lui de torture et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, et je ne verrai pas le deuil. Voilà pourquoi en un seul jour arriveront ces plaies, peste et deuil et famine. Et elle sera consumée par le feu, parce qu'il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugée. Oui, le jugement de la Babylone, de la prostituée. Oui, il y a d'abord le discernement, puis l'exécution. Et l'exécution qui se fait par le feu. Tout ce qui est relié à la bête, d'une manière ou d'une autre, toutes les alliances qui se font par la bête de la mer, tout cela est démoniaque. C'est l'œuvre du dragon. Et donc, un jour, nous verrons toutes les ramifications de la bête. Partout où, de fait, elle est. chercher, c'est d'attirer l'homme. Et un jour, Dieu donne à l'homme ce discernement pour sortir de là. Alors ça se fait actuellement chez des convertis. Et on se convertit tous les jours. Et tous les jours, on sort de l'emprise de la bête de la mer. Tous les jours, un peu plus. Parce que sortez de chez elle, ô mon peuple. Ça, c'est l'appel de Dieu. Pour ne pas vous associer à ses péchés. Et pour ne pas recevoir de ses plaies. Ça, c'est la lutte qui, à un moment donné, prendra ce paroxysme de la lutte. Quand nous arriverons au terme, au dernier temps, au dernier moment. Juste avant l'arrivée de Jésus. Vous voyez, ce purgatoire sur la terre, cette purification très radicale. Et ils pleureront, ils se frapperont la poitrine à son sujet, les rois de la terre qui se sont prostitués avec elle et ont partagé son luxe, lorsqu'ils verront la fumée de son incendie, se tenant au loin, par peur de sa torture, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, car en une heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et mènent le deuil sur elle. Mais le commerce, l'économie, c'est la purification de tout ça. C'est assez extraordinaire. Et les marchands de la terre pleureront et mènent le deuil sur elle. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de lin fin, de pourpre, de soie, d'écarlate. De tout bois odorant, et tout objet d'ivoire, et tout objet de bois très précieux, et de bronze, et de fer, et de marbre, et cannelle, et amome, et parfum, et essence, et encens, et vin, et huile, et fleurs de farine, et blé, et bestiaux, et brebis, ça dans le commerce on peut tout mettre, et tout y est. Oui, c'est très, très curieux, hein. La domination de la bête de la mer. Une domination qui paraît tout prendre. Et le lien avec ces marchands, ça ne veut pas dire, encore une fois, que tout commerce est lié à la bête. Mais ça veut dire que la bête se sert souvent du commerce. Pas servir de maître en même temps. Mammon et le Christ. Pas servir de maître en même temps. Et vous voyez, on voit là l'infiltration. C'est ça qui me semble ce qu'on doit comprendre. Il ne s'agit pas de voir le démon partout. Hein. Mais il s'agit de comprendre. Et ça nous est révélé, ça. Ça nous est dit. Bestiaux et brebis, avec des chevaux, et des chariots, et des esclaves, et des personnes humaines. Et les fruits que convoitait ton âme s'en sont allés loin de toi. Et tout ce qu'il y avait d'exquis et de splendide est perdu pour toi. Et jamais, jamais plus on les trouvera. Les marchands de tout cela, qui s'étaient enrichis par elle, se tiendront au loin, par peur de sa torture, pleurant et menant le deuil, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville !» Elle était vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate, et de tout or et d'or, et de pierres précieuses, et de perles, et en une heure a été dévastée tant de richesses. Et tout pilotes et tout caboteur et les matelots et tous ceux qui exploitent la mer se tiennent au loin. Il criait en regardant la fumée de son incendie qui était semblable à la grande ville. Ils lancèrent de la terre sur leur tête. Il criait, pleurant et menant le deuil. Malheur, malheur, la grande ville où de ton opulence s'étaient enrichis tous ceux qui ont des bateaux sur la mer. Et en une heure, elle a été dévastée. C'est extraordinaire, vous voyez, l'Apocalypse devient lyrique. C'est du lyrisme, ça. Du grand lyrisme. On pleure sur la bête. Et on se tient à l'écart. Il n'y a pas d'amour. On ne l'aime pas. On s'est laissé tromper, séduire. On a puisé d'elle tout ce qu'on pouvait, gagner d'argent, mais on ne l'aime pas, on se tient au loin. Exulte à son sujet, ciel, et vous, les saints. Oui, les marchands, tous ceux qui sont liés à elle, les pilotes sur la mer, disent malheur, malheur. Et alors le Magnificat du ciel. Exulte à son sujet, ciel, et vous les saints, et les apôtres, et les prophètes, car en la jugeant, Dieu vous a fait justice. La justice de Dieu, le discernement de Dieu, séparer tout ce qui relève de la prostitution, de l'idolâtrie. Et il y a beaucoup plus de choses qu'on ne pense qui relèvent de l'idolâtrie. L'argent peut devenir un idole quand ça finalise nos vies. Et on fait tout pour ça. Et un ange vigoureux prit une pierre comme une grande meule. Il la jeta dans la mer en disant « Ainsi, d'un coup, sera jetée Babylone, la grande ville, et jamais plus on ne la retrouvera. Et la voix des sitaristes, et des musiciens, et des flûtistes, et des trompettistes, jamais plus on ne s'entendra chez toi, et aucun artisan d'aucun art, jamais plus ne se trouvera chez toi. Et le chant de la meule, jamais plus ne s'entendra chez toi. Et la lumière de la lampe, jamais plus ne brillera chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épousée, jamais plus ne s'entendra chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie, et que chez elles on a trouvé le sang des prophètes et de saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Vous voyez, le grand dévoilement. Ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et le Magnificat du ciel qui montre comment s'écroule tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas fait par amour, ça ne tient pas, ça ne dure pas. Tout ce qui est fait par intérêt d'agent, ne dure pas. Et voyez le geste de l'Évangile. Il y a un ange vigoureux prit une pierre comme une grande meule, et la jeta dans la mer, en disant, ainsi, d'un coup, sera jetée Babylone. Alors comprenez bien, Babylone, ce n'est pas les hommes, c'est l'œuvre du démon, c'est le tissu de relations, économiques, en vue de l'argent, ordonné aux idoles. Ce n'est pas les hommes. Il faut bien comprendre. La prostituée, ce n'est pas une femme. Non. La femme du chapitre 12, face au dragon, c'est Marie. Mais le mal n'existe pas substantiellement. C'est un tissu de péché, de fausses relations. C'est ça que fait le démon. Le démon enveloppe l'homme d'un tissu de fausses relations, de fausses opérations, d'orgueil, de vanité, de concupiscence. C'est tout. Mais le cocon dans lequel on est, espèce de grand filet, un tissu de relations. C'est ça la Babylone. Il ne faut surtout pas hypostasier. C'est Dieu. Parce que c'est ça la justice. C'est pas le regard sur les hommes. Les habitants de la terre sont habitants de la terre à cause de leur alliance avec la bête de la mer. Et c'est cette alliance avec la bête de la mer qui est dénoncée et qui éclate et supprimée. Alors, que deviendront les hommes? Ceux qui étaient liés à la bête de la mer par ce filet, par ce tissu de prostitution, que deviendront-ils? À ce moment-là, ils pourront écouter Dieu. Après cela, j'entendis comme une voix forte de foules nombreuses dans le ciel qui disait « Alléluia ». Voilà votre « Alléluia » des charismatiques. Alléluia, le salut et la gloire et la puissance sont à notre Dieu, car véridique et juste ses jugements, car il a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre par sa prostitution, et il a vengé le sang de ses esclaves en le redemandant de sa main. Et une seconde fois, ils dirent « Alléluia !» Et sa fumée monte pour des éternités d'éternité. Et les 24 vieillards et les 4 vivants tombèrent et se prosternèrent devant Dieu, qui est assis sur le trône, en disant « Amen !» « Alléluia !» Et d'auprès du trône sortit une voix qui disait « Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves, vous qui le craignez !»